Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 25. Journal du Dr. Seward. 11 octobre, au soir. Jonathan Harker me prie d'enregistrer ce qui suit. Lui-même, me dit-il, ne suffit pas à la tâche, et il souhaite que tout soit exactement consigné. Aucun de nous, je pense, ne fut surpris quand nous fûmes invités auprès de Madame Harker un peu avant le crépuscule. Nous avons été récemment amenés à comprendre que le lever et le coucher du soleil sont pour elle des moments d'une étrange libération où son moi véritable se manifeste sans que nulle force la domine, soit pour l'empêcher d'agir, soit au contraire pour l'y obliger. Cet état fait son apparition environ une demi-heure ou davantage avant le lever ou le coucher du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit haut ou que les nuages s'embrasent sous les rayons qui dépassent encore l'horizon. C'est au début une sorte d'influence négative, comme si un lien était dénoué, à quoi succède, très rapidement, une liberté absolue. Mais quand celle-ci est suspendue, le retour en arrière, la rechute viennent très vite, précédé seulement par un intervalle de silence avertisseur. Lorsque nous nous rencontrâmes ce soir, elle paraissait quelque peu contrainte et donnait tous les signes d'une lutte intérieure. J'attribuais cette tension au violent effort qu'elle exigeait d'elle-même dans le premier moment où elle recouvrait sa liberté. Quelques minutes, toutefois, lui suffirent pour reprendre un contrôle total sur elle-même. Puis, faisant signe à son mari de s'asseoir à son côté, sur le sofa où elle était à demi étendue, elle nous pria d'apporter des chaises près d'elle. Prenant dans les siennes la main de Harker, elle commença. Nous sommes ici réunis, libres, et peut-être pour la dernière fois. Je sais que vous serez toujours avec moi jusqu'à la fin. Ces mots s'adressaient à son mari, dont la main, nous le voyons, serrait étroitement la sienne. Demain matin, reprit-elle, nous partons accomplir notre entreprise, et Dieu seul sait ce qu'elle nous réserve. Vous avez la bonté de me prendre avec vous. Tout ce que des hommes courageux peuvent faire pour une pauvre faible femme, dont l'âme est peut-être perdue, non, pas encore, mais en grand danger en tout cas, vous le ferez, je le sais. Mais souvenez-vous que je ne suis pas semblable à vous. Il y a du poison dans mon sang, dans mon âme, et j'en puis périr. À moins que quelques secours ne me viennent de vous. Ah, mes amis, vous savez aussi bien que moi que mon âme est en péril. Je sais, il est vrai, qu'une voie reste ouverte devant moi, mais vous ne devez pas et je ne dois pas la prendre. Elle nous jeta un regard interrogateur, le premier et le dernier étant pour son mari. Quel chemin ? Demanda Van Helsing d'une voix rauque. Quel est ce chemin que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas prendre ? Mourir sur le champ de ma propre main ou de celle d'un autre, avant qu'un mal plus grand soit consommé. Je sais, et vous aussi, que si j'étais morte, vous voudriez libérer mon esprit immortel, comme vous l'avez fait pour ma pauvre Lucie. S'il n'y avait pour m'arrêter que la mort ou la peur de la mort, je n'hésiterais pas devant elle à présent, parmi des amis à qui je suis chère. Mais la mort n'est pas tout. Je ne puis croire qu'en mourant maintenant, avec un si grand espoir devant nous et une tâche meilleure à accomplir, je fasse la volonté de Dieu. C'est pourquoi je renonce pour ma part à la certitude du repos éternel, et je m'avance vers cette nuit qui recèle peut-être ce qu'il y a de plus noir en ce monde et dans le monde inférieur. Nous nous taisions, comprenant d'instinct que ce n'était là qu'un prélude. Les autres visages étaient graves, tendus. Celui de Harker devenait couleur de cendre. Peut-être devinait-il mieux que nous ce qui allait suivre, elle poursuivit. Tel est mon rapport au Hochepo. Je remarquais l'étrange terme dont elle se servit à cet endroit, et le plus sérieusement du monde. Quel est l'apport de chacun de vous ? Vos vies, je le sais, dit-elle vivement. Tâche aisée pour des hommes braves. Vos vies viennent de Dieu, et vous les lui restituez. Mais que me donnerez-vous à moi ? Elle eut de nouveau le même regard interrogateur, mais en évitant cette fois les yeux de son mari. Quincy semblait la comprendre, car il acquiesça d'un mouvement de tête, et le visage de Madame Harker s'éclaira. « Eh bien, je vais vous dire simplement ce que je veux de vous, car rien dans notre accord ne doit rester dans l'ombre. Vous devez me promettre, chacun et tous, et même vous, mon mari bien-aimé, si l'heure vient, de me tuer. »«
Quelle heure ?»
Quincy avait parlé, mais d'une voix basse et étranglée. « Celle où vous serez convaincu que le changement en moi est tel que la mort pour moi est devenue préférable à la vie. Lorsque je serai de la sorte morte selon la chair, sans attendre une seconde, percez-moi d'un pieu et coupez-moi la tête. Ou faites tout ce qu'il faudra pour que j'accède au repos. » Quincy fut le premier à se lever après un silence. Il mit un genou en terre devant elle et, lui prenant la main, dit solennellement « Je ne suis qu'une brute, et peut-être n'ai-je pas vécu pour être digne d'une telle distinction. Mais je vous jure, par tout ce que j'ai de plus sacré, que, si cette heure vient jamais, je ne broncherai pas devant le devoir que vous nous imposez. Et je vous promets également que, si j'ai le moindre doute, je n'hésiterai pas. Je considérerai le moment comme venu. » Mon véritable ami, fut tout ce qu'elle put dire au milieu de ses larmes, et s'inclinant vers lui, elle baisa sa main. « Je prends le même engagement, Madame Mina, » dit Van Helsing. « Moi aussi, » dit Lord Godalming, chacun d'eux à son tour, s'agenouillant pour prêter serment. Et je fis de même. Son mari enfin se tourna vers elle, le regard perdu et le visage couvert d'une pâleur verdâtre qui atténuait la blancheur neigeuse de ses cheveux. Il demanda « Et moi aussi, dois-je faire cette promesse, ô ma femme ?» « Vous aussi, mon chéri, » lui répondit-elle avec un immense élan de pitié dans la voix et les yeux. « Vous ne devez pas reculer. Vous êtes ce que j'ai de plus proche et de plus cher. Pour moi, vous êtes le monde entier. Nos âmes sont fondues l'une dans l'autre pour toute la vie et toute l'éternité. Songez, mon chéri, qu'il y eut une époque où des hommes braves ont tué leur épouse et les femmes de leur famille pour leur épargner de tomber entre les mains de l'ennemi. Leurs mains n'ont pas défailli, car celles qu'ils aimaient les suppliaient de les tuer. C'est le devoir viril envers les aimés dans les jours d'épreuves atroces. Ah, mon très cher, si je dois mourir de la main de quelqu'un, que ce soit de la main de celui qui m'aime le plus. Docteur Van Helsing, je n'ai pas oublié que lorsqu'il s'est agi de la pauvre Lucie, vous avez témoigné une véritable pitié à celui qui l'aimait. Elle rougit furtivement, s'arrêta, et modifia sa phrase « à celui qui avait éminemment le droit de lui conférer la paix. S'il revient une heure comme celle-là, je compte sur vous pour que mon mari se souvienne avec douceur, sa vie durant, que c'est sa main aimante qui me libéra du joug d'horreur que je portais. » « Je jure une fois encore, » dit la voix vibrante du professeur. Madame Harker sourit. « Oui, sourit vraiment. » Et, retombant en arrière avec un soupir de soulagement, elle reprit. « Et maintenant, pour vous mettre en garde, un dernier mot qu'il ne faudra jamais oublier. Cette heure, si elle doit un jour venir, peut surgir rapide et inattendue. Dans ce cas, ne perdez pas de temps à guetter une occasion propice. Car à ce moment, je puis être, oui, si l'heure vient, je dois être allié contre vous à votre ennemi. Une prière encore. » dit-elle avec une grande solennité. Une prière moins vitale, moins urgente que l'autre, mais c'est une faveur que je vous demande de m'accorder si vous le voulez bien. Nous marquâmes notre accord sans qu'un seul de nous eût dit un mot, Ce n'était pas nécessaire. Je vous demande de lire maintenant l'office des morts. » Un sourd gémissement de son mari l'interrompit. Elle prit sa main et la posa sur son cœur tout en continuant. « Vous le lirez un jour sur mon corps. Quelle que soit l'issue de cette terrible aventure, ce sera une douce pensée pour nous tous, pour plusieurs du moins. Mon chéri, c'est vous, j'espère, qui le lirez. Ainsi, c'est votre voix qui le gravera dans ma mémoire pour l'éternité, quoi qu'il arrive. » « Mais, ma chérie, plaida-t-il, la mort est bien loin de vous. » « Non pas, dit-elle, levant la main en signe d'avertissement. « Je suis en ce moment plus enseveli dans la mort que si un sépulcre terrestre pesait sur moi. » « Ma femme, dois-je vraiment le lire ? » demanda-t-il avant de commencer. « Cela me fortifierait, dit-elle, sans plus. » Et il se mit à lire lorsqu'elle lui eut tendu le livre. « Comment pourrais-je ? Qui pourrait décrire cette scène étrange avec sa solennité, sa sombre tristesse, son horreur, et malgré tout, sa douceur ? Même un sceptique qui ne voit qu'une parodie d'amère vérité dans tout ce qui est émotion sacrée aurait senti son cœur se fondre devant ce petit groupe d'amis tendres et dévoués, à genoux autour de cette femme accablée et souffrante, et en entendant la voix sensible, passionnée, de son mari, tandis qu'en accent brisé par l'émotion et souvent entrecoupé, il lisait le simple et bel office des morts. Je n'en puis plus. Les mots et la voix me manquent. Son instinct l'avait bien guidé. Si incroyable que cela puisse paraître, et nous en fûmes les premiers étonnés, ce moment nous réconforta puissamment. Et le silence qui nous prouva que Madame Harker perdait de nouveau après la liberté de son âme, ne nous remplit pas du désespoir que nous avions redouté.
Thank you.
Journal de Jonathan Harker. 15 octobre. Varna. Nous avons quitté Charing Cross dans la matinée du 12, atteint Paris la même nuit et y pris des places réservées pour nous dans l'Orient Express. Voyageant nuit et jour, nous sommes arrivés ici vers 5 heures. Lord Godalming s'est rendu au consulat, demandé si aucun télégramme n'était arrivé pour nous, tandis que les autres s'installaient à l'hôtel, l'Odessus. Le voyage a pu comporter quelques incidents. J'étais trop pressée d'arriver pour en prendre souci. Jusqu'à ce que le tsarine Catherine entre au port, rien dans le vaste monde n'aura pour moi le moindre intérêt. Grâce à Dieu, Mina est bien et semble être plus forte. Elle reprend des couleurs et dort beaucoup. Pendant le voyage, elle a dormi presque tout le temps. Mais au moment qui précède l'aube et le crépuscule, elle est au contraire très éveillée et active. Ce sont les heures où Van Helsing a pris l'habitude de l'hypnotiser. Au début, il a éprouvé certaines difficultés et il a dû faire bien des passes. Mais à présent, elle semble céder sur le champ, comme par habitude, et c'est à peine s'il faut agir sur elle. À ces instants-là, il semble avoir toute autorité sur elle et ses pensées lui obéissent. Il lui demande invariablement ce qu'elle peut voir et entendre. Elle répond alors « Rien, tout est noir ». Puis, j'entends les vagues heurter le navire et l'eau qui se brise. On tire des cordes, des voiles, les mâts grincent et les vergues. Le vent est fort. Je l'entends dans les haubans et la proue fend l'écume. Le tsarine Catherine est évidemment encore en mer, se hâtant vers Varna. Lord Godalming rentre à l'instant avec 4 télégrammes envoyés de jour en jour depuis notre départ et tous nous donnant le même renseignement. Le Lloyd n'a été avisé du passage du tsarine Catherine en quelque lieu que ce soit. Lord Godalming avait pris ses dispositions avant de quitter Londres, afin que son agent lui télégraphie de jour en jour et lui dise si le navire avait été signalé quelque part. Nous avons dîné et nous nous sommes couchés tôt. Demain, nous devons voir le vice-consul et prendre nos dispositions, si c'est possible, pour monter à bord dès que le bateau arrivera. Notre chance serait, dit Van Helsing, que nous puissions le faire entre le lever et le coucher du soleil. Même sous la forme d'une chauve-souris, le comte ne peut traverser une eau courante par ses propres ressources. Il ne pourra donc quitter le navire. Comme il ne peut, sans éveiller les soupçons, ce qu'évidemment il souhaite éviter, prendre la forme humaine, il lui faudra rester dans son coffre. Si, par conséquent, nous pouvons monter à bord après le lever du soleil, il sera à notre merci, car nous pourrons ouvrir sa caisse et nous assurer de sa personne, comme on l'a fait pour la pauvre Lucie, avant qu'elle ne se réveille. La pitié qu'il peut attendre de nous ne sera pas grand-chose. Grâce au ciel, la corruption peut tout dans ce pays, et nous avons beaucoup d'argent. Assurons-nous simplement que le bateau ne puisse accoster entre le coucher et le lever du soleil sans que nous en soyons avisés, et nous sommes sauvés. Le seigneur Portefeuille arrangera les choses, j'imagine. 16 octobre. Mina signale toujours la même chose. Des vagues clapotantes, de l'eau qui se brise, de l'obscurité et du vent en poupe. Nous sommes arrivés bien à temps et les nouvelles du tsarine Catherine nous trouveront prêts. Le bateau doit passer les Dardanelles. Nous sommes donc sûrs d'entendre parler de lui. 17 octobre. Tout est fin prêt à présent, je pense, pour saluer le comte à son retour de voyage. En racontant aux affréteurs que la caisse devait contenir des objets volés à un de ses amis, Godalming a obtenu une demi-autorisation de l'ouvrir à ses risques et périls. L'armateur lui a remis un papier prescrivant au capitaine de lui accorder toute facilité pour agir à sa guise sur le bateau et une autorisation analogue pour son agent de Varna. Nous avons vu cet agent favorablement disposé par la courtoisie de Godalming à son égard et nous sommes convaincus qu'il nous apportera toute l'aide qui sera en son pouvoir. Nous avons pris nos mesures pour le cas où nous parviendrions à ouvrir la caisse. Si le comte s'y trouve, Van Helsing et Siward lui couperont la tête tout en lui enfonçant un pieu dans le cœur. Maurice, Godalming et moi, nous préviendrons toute intervention, même s'il nous faut faire usage des armes dont nous serons pourvus. Le professeur nous assure que le corps du comte, traité de la sorte, tombera aussitôt en poussière. En ce cas, rien ne témoignera contre nous si nous venions à être soupçonnés de meurtre. Même si la chose ne se produisait pas, nous assumerions les conséquences de notre acte et peut-être, un jour, ce cahier pourrait-il servir de preuve pour s'interposer entre l'un de nous et l'échafaud. Pour moi, je serais trop heureux de saisir l'occasion si elle se présente. Nous sommes décidés à remuer ciel et terre pour assurer notre succès. Nous nous sommes arrangés avec certains officiels afin d'être avertis par messager spécial dès que le tsarine Catherine sera en vue. 24 octobre. Toute une semaine d'attente. Un télégramme chaque jour pour Godalming, répétant la même histoire. Aucune nouvelle encore. La réponse de Mina pendant l'hypnose est invariable. Clapotis de vagues, coups d'eau, grincement de mât. Télégramme de Rufus Smith, Lloyd, Londres, pour Lord Godalming. Aux beaux soins de HBM, vice-consul Varna. 24 octobre, tsarine Catherine signalée ce matin aux Dardanelles. Journal du docteur Seward, 24 octobre. Combien je regrette de n'avoir pas mon phonographe. Rien ne m'ennuie comme d'écrire mon journal à la plume, mais Van Helsing dit qu'il le faut. Nous avons eu un accès de folle agitation quand ce matin Godalming a reçu le télégramme du Lloyd. Je sais à présent ce que les soldats peuvent éprouver en entendant le signal de l'attaque. Seule de nous tous, Madame Harker ne donne aucune marque d'émotion, car nous eûmes soin de lui laisser tout ignorer et de ne rien lui laisser voir de notre impatience. Autrefois, j'en suis sûre, elle aurait tout remarqué. Quelques peines que nous eussions prises pour dissimuler. Mais, sous ce rapport, elle a beaucoup changé depuis les 3 dernières semaines. Une léthargie s'étend sur elle. Quoiqu'elle semble forte et bien portante, et qu'elle ait repris ses anciennes couleurs, Van Helsing et moi, nous ne sommes pas satisfaits. Nous parlons souvent d'elle, sans du reste en rien dire aux autres. Ce serait briser le cœur, et sûrement les nerfs, du pauvre Harker que de lui laisser deviner nos soupçons. Van Helsing examine attentivement, me dit-il, ses dents, tandis qu'elle est en état d'hypnose, assurant qu'aussi longtemps qu'elles ne deviennent pas plus aiguës, il n'y a pas danger urgent d'une transformation. Si cette transformation s'amorçait, il faudrait prendre des mesures. Nous savons ce qu'elle serait, quoique nous n'échangions pas nos pensées à ce sujet. Aucun de nous ne reculera devant la tâche, si affreuse qu'elle puisse être. Euthanasie est un mot excellent et réconfortant. J'ai de la reconnaissance pour celui qui l'a inventé. Il y a environ 24 heures de mer des Dardanelles jusqu'ici, à l'allure que le tsarine Catherine a pratiquée depuis Londres. Le bateau devrait donc arriver demain matin. Comme ce ne peut être plus tôt, nous avons décidé de nous retirer et de nous lever à 1 heure afin d'être prêts. 25 octobre, midi. Aucune nouvelle de l'arrivée du bateau. Le message de Madame Harker au cours de la transe est le même que d'habitude, de telle sorte que nous pouvons apprendre quelque chose d'un moment à l'autre. Nous sommes dans la fièvre, à l'exception de Harker, qui reste calme. Ses mains sont d'un froid de glace, et tout à l'heure, je l'ai trouvé aiguisant le grand couteau Gourka qu'il ne quitte plus. Vilaine perspective pour le comte, la pointe de ce coucri touchant sa gorge et enfoncée par cette main résolue et glaciale. Van Helsing et moi, nous sommes aujourd'hui quelque peu inquiets au sujet de Madame Harker. Elle est tombée un peu avant midi dans une sorte de léthargie qui ne nous plaît pas. Et nous n'en avons rien dit aux autres, mais nous nous en attristons. Elle avait été très agitée toute la matinée, de telle sorte que nous fûmes d'abord contents de savoir qu'elle se reposait. Lorsque, cependant, son mari nous dit en passant qu'elle dormait si fort qu'il ne pouvait la réveiller, nous sommes entrés dans sa chambre pour en juger par nous-mêmes. Elle respirait naturellement et semblait si bien, si paisible, que nous sommes tombés d'accord pour penser que rien ne pouvait lui être plus bienfaisant que le sommeil. Pauvre petite, elle en a long à oublier. Rien d'étonnant si le sommeil qu'il lui permet lui est propice. Plus tard, notre sentiment était exact, car lorsqu'elle se réveilla après avoir dormi plusieurs heures, elle parut plus animée, mieux portante qu'elle n'a été depuis bien des jours. Au crépuscule, elle fit son habituel rapport sous hypnose. Où qu'il soit sur la mer Noire, le comte se hâte vers son but, vers son jugement. J'y compte bien.